Effect. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale présentée par Nora Belgomery et Clément Gillot.
Bonjour Lara, comme nos confrères l'ont annoncé il y a quelques minutes, nous allons aujourd'hui discuter de l'enquête réalisée par les étudiants de Master 1 en journalisme.
Oui Nora, ce soir on est avec Antoine Ramet, Julien Beauvois, Thomas Géhenot et Clémence Giroul. Ils ont réalisé une investigation publiée dans le MOOC de fin d'année du VIF. L'enquête s'intitule « Crocodile et pieds nickelés » et il s'agit d'une histoire de vol plutôt particulière, Antoine.
Oui absolument, c'est une affaire de vol, d'abus de confiance, de trafic international. Pour résumer brièvement, Christiopolis, riche entrepreneur sprimontois, s'est fait voler 850 pièces de sa collection d'animaux naturalisés, en gros des animaux empaillés, par NC, on va l'appeler comme ça, ses plus fidèles employés, presque son fils. NC volait ces animaux et les vendait aux quatre coins du monde afin de financer une addiction au jeu d'argent. Il aurait plusieurs complices et a escroqué plusieurs personnes dans le monde entier.
Alors pour donner une idée aux auditeurs, on s'est rendu chez Christiopolis et on a eu l'occasion de voir sa collection. Alors c'est assez impressionnant, on est rentré avec Clément et Mathilde. Alors quand on y arrive dans ce hangar, c'est une annexe de sa maison, on se rend compte de la quantité d'animaux empaillés, des oiseaux, des lions, des morses, enfin bref de tout. Il faisait aussi très froid donc ça met dans l'ambiance.
Oui, c'est vrai que ça faisait un petit peu froid dans le dos de se retrouver là au milieu de toutes ces perdues braquées sur nous. Mais alors Antoine, pourquoi est-ce que ce vol nécessitait une investigation journalistique ?
Si on a enquêté, c'est parce que l'enquête judiciaire patine depuis 2021. NC est passé aux aveux, il a confessé ses méfaits et pourtant il n'a jamais été poursuivi. Il a été interrogé de manière très succincte et n'a jamais été condamné. Le problème est aussi qu'il y a beaucoup d'instances qui sont sur l'affaire et il y a un manque de coopération. On a d'ailleurs retrouvé deux crocodiles aux Pays-Bas, mais on ne peut pas les rapatrier sans une décision de la juge d'instruction en charge de l'enquête. Ou même plus grave, police a reçu une balle de fusil au guise de menace pour abandonner l'affaire, et la police n'a jamais enquêté sur cette balle retrouvée dans une boîte aux lettres. Et il y a de grosses lacunes au niveau judiciaire, c'est pour ça que le clan police est frustré et qu'on a publié cette enquête. C'était vraiment sur ce volet que nous avons anglé notre enquête, puisque l'affaire de vol était sortie au moment des aveux dans la presse, en 2021 pour rappel, mais ça n'était pas allé plus loin à ce moment-là.
Franny Andrien a eu l'occasion d'interviewer Maître Célis, l'une des avocats de Christiopolis. Elle est revenue sur les raisons qui font que cette enquête judiciaire reste au point mort.
Maître Célis l'affirme, toutes les procédures ont été respectées de leur côté. Elle a commencé à s'inquiéter lorsque l'instruction n'a pas mis en application les demandes du parquet.
Il y a un réquisitoire de mise à l'instruction qui est pris par le parquet pour vol, vol domestique, abus de confiance, recel. Il y a aussi, le parquet demande aussi que différents mandats d'arrêt soient pris et on attendait à ce moment-là que les inculpés en question, les différentes personnes suspectées, soient interpellées et voire incarcérées pour les principaux. Ce qui n'a pas été le cas, ce qui nous a donc tout de suite inquiétés.
L'avocate du collectionneur défend d'abord l'instruction en plaidant la cause de la méconnaissance du sujet, mais elle avoue tout de même que chaque étape de cette enquête est étonnamment longue.
On a réalisé que le principal problème, quand nous sollicitions différents devoirs, à savoir les perquisitions, etc., et qui devaient ensuite potentiellement passer par les services CITES, il y a quand même un certain délai entre le moment où le devoir est ordonné, celui où il est exécuté, et ça permet évidemment pas toujours de remettre la main sur des pièces qui ont été volées.
Il existe des services spécialisés pour aider la justice sur ce type d'affaires, mais aucun d'entre eux n'a été activement sollicité.
Il y a des services qui sont spécialisés pour intervenir dans ce genre de situation et qui sont spécialisés dans le commerce en général de ces pièces avec des missions légales ici, qui sont des missions légales répressives et pas civiles. Et c'est vrai que c'est surprenant de ne pas avoir une collaboration active entre ces services-là et les services de police ou bien tout simplement l'instruction.
Pourtant, toute une série de preuves peuvent aider la police et la justice dans l'exécution rapide de leurs décisions. Parmi ces preuves, on trouve le certificat CITES, propre à chaque animal.
Alors dans cette interview, le Maître Célis mentionne la CITES. Alors personnellement, avant cette enquête, je n'en avais jamais entendu parler. Clémence, peut-être que tu peux réexpliquer un petit peu ce que c'est.
Bien sûr, la CITES ou la Convention de Washington est un accord gouvernemental signé en 1973 par 184 pays. Son objectif est de garantir que le commerce international des plantes et des animaux ne nuise pas à la conservation de la biodiversité. Concrètement, chaque animal vivant ou naturalisé dispose d'un certificat CITES permettant de confirmer son authenticité et de l'identifier lors des transactions. Dans cette convention, les espèces sont classées dans trois annexes qui représentent un degré de menace différent. Par exemple, on retrouve le tigre dans l'annexe 1, qui est le degré de menace maximale. Cela signifie que son commerce en est absolument interdit. Dans l'annexe 2, les espèces pourraient être prochainement menacées, mais leur commerce est encore possible, comme certaines girafes par exemple. Et enfin, dans l'annexe 3, nous pouvons trouver des espèces qui ne sont pas menacées, mais qui sont protégées dans certains pays, comme l'antilope au Népal. Le certificat CITES est donc nécessaire lorsqu'il y a une importation ou une exportation. Ou lorsqu'un taxidermiste décide de récupérer l'animal, il doit demander un certificat pour le naturaliser.
D'accord, mais alors ce certificat, comment est-ce qu'il entre en jeu dans le cadre de votre enquête ?
Ici, le certificat sert de carte d'identité aux animaux naturalisés, en fait. Il détaille leur espèce, leur date de décès et surtout leur propriétaire. Si un animal naturalisé se trouve à l'étranger, il peut donc facilement être identifiable et ramené à son propriétaire, grâce à la collaboration des services de police. Mais cela ne semble pas être si facile dans l'affaire de M. Christian Polis, justement.
Merci Clémence pour ces explications. Alors si je comprends bien, avec ce certificat, on devrait retrouver plus facilement les animaux volés par le présumé coupable NC.
Exactement Nora.
Mais le fait est que ces animaux ne réapparaissent pas. Christian Polis est frustré de cette situation. Mathilde Varin a pu s'entretenir avec lui à ce sujet.
Peut-être que vous pouvez d'abord nous redonner votre ressenti que vous avez eu au tout départ.
C'est le truc le plus abominable qui me soit arrivé, quoi. Je veux dire psychologiquement. Hormis le fait de l'argent, bien sûr, hein, qui a son importance aussi. Mais pour moi, c'est un viol. Hein, parce que j'avais 100% en ce gars-là. Il y a 12 ans qu'il travaillait pour moi. Hein.
Au départ, vous avez été un peu abasourdi. Enfin, vous y avez cru, comment ça s'est passé, vous
l'avez Lorsqu'on a découvert le Porto Rose, ben, il m'a fallu un certain temps pour encaisser et pour réaliser que c'était vrai. Quoi, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Surtout venant de lui. Donc on lui faisait 100% confiance. Et je dis, venant de lui, c'était pas envisageable, je vais dire. Donc c'est vrai qu'il a fallu un certain temps pour vraiment réaliser que c'était bien vrai. C'est 2-3 jours après que je me suis dit, mais c'est pas possible. Pas possible, c'est...
Vous n'avez pas de possibilité recours, de recours
on, des recours, on a déjà fait 4 recours contre le juge d'instruction, mais les loups ne se mangent pas entre eux. Hein.
D'accord, donc ces 4 recours, ils ont été...
Il y a un recours, on a donné instruction à la juge d'instruction de faire combien de travaux Elle devait faire 2, et 6 mois après, ils n'avaient toujours pas fait. Un an après, pardon.
Et ils étaient sur quoi, ces travaux
C'était des saisies de comptes et des perquisitions à certains endroits où on savait qu'il y avait des animaux qui étaient cachés. Et elle n'a rien fait.
Vous espérez qu'il finisse en prison? Qu'est-ce que vous souhaitez, en fait?
Non, j'espère qu'il y ait quand même quelque chose qui lui pourrisse la vie. De l'argent, je vous ai dit, je suis presque sûr et certain qu'on ne récupérera rien. Maintenant, prison, il va être condamné, il va être avec sourcil.
En prison, en tout cas, qu'il écope d'une
prison. J'aimerais bien qu'il écope d'un peu de prison, ça lui ferait peut-être du bien, ça lui apprendrait à vivre. Mais je ne me fais pas d'illusions sur la justice.
Vous espérez rien de la justice?
J'aimerais qu'il fasse de la prison ferme, mais tout le monde, la police comme le juge d'action, m'ont déjà dit bon, c'est un vol sans violence, donc il sera condamné à de la prison avec sourcil. Point.
Enfin, voilà. Sans parler de prison peut-être, mais en tout cas d'une peine, enfin d'une sanction, vous espérez quand même quelque chose de la justice?
Il manquerait non plus que ça, qu'il n'aurait rien.
Oui. Non, mais parce que comme vous disiez que vous pensiez que la justice ferait rien...
Mais quand je dis qu'elle ne fera rien, elle ne fait rien du tout. Et quand il sera jugé, je n'imagine pas qu'on va le condamner à 2 ans de prison ferme ou quoi que ce soit. Ils me l'ont déjà dit, c'est un juge sans violence, il aura 2, 3, 4, 6 mois de prison avec sursis. Mais je veux qu'il les aille quand même. Il faut quand même quelque part qu'on le juge. Mmh. Il faudrait déjà qu'on commence par l'inculper depuis 2 ans et demi. Vous vous rendez compte que ce gars-là a eu 2 ans et demi devant lui pour vider les comptes, pour cacher tout ce qu'il veut, faire disparaître les preuves. Il a eu 2 ans et demi pour faire tout ce qu'il veut, comme il veut.
Vous n'avez plus aucune relation avec lui
Non, aucune. Okay. Je n'ai même jamais plus croisé.
Vous l'avez jamais plus croisé?
C'était peut-être mieux. Peut-être que la publication qui va paraître dans le Vif, peut-être que ça fera un peu réfléchir la justice liégeoise, la police, de dire oui, c'est vrai, ce dossier, c'est un scandale, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. Déjà qu'on transfère le dossier à la police judiciaire, c'est déjà la première chose à faire. Et aussi peut-être virer ce juge d'instruction et donner le dossier à un autre juge d'instruction qui a envie de faire le dossier. Voilà, ça, peut-être que cet article pourrait servir à ça.
Oui,
voilà.
Ça, vous y croyez quand même.
Je l'espère.
Vous l'espérez, ok.
Alors, on sent un fort sentiment d'injustice, Antoine.
Oui, c'est vraiment ce qu'on m'a dans cette affaire, on l'entend dans cette interview d'ailleurs. C'est vraiment la frustration qui prime. Ce qu'on révèle dans cette enquête, c'est que la police locale n'est pas du tout calée pour une affaire de cette envergure. Pardon. Il est aussi amer vis-à-vis de la juge d'instruction qui, selon lui, n'a pas réalisé les travaux qu'on lui avait demandé de faire, d'où la frustration.
Alors l'article dans lequel vous racontez tout ça, justement, il est sorti, on le rappelle, dans le MOOC du VIF la semaine dernière, et il a été aussi publié sur le site web du VIF aujourd'hui. Mais En fait, comment est-ce que vous avez eu l'opportunité de réaliser et de publier une investigation sur ce sujet, Julien ?
Alors, toutes les enquêtes qu'on va vous présenter pendant ces quelques jours sont des dossiers à l'origine traités par David Leloup, qui est journaliste et aussi notre professeur d'atelier d'investigation. Donc, il nous a proposé plusieurs sujets et celui-là, il nous a tous attirés parce que on rentre dans ce monde un peu curieux que vous avez découvert un petit peu déjà ce soir de la taxidermie. Et il y a un côté polar aussi dans cette affaire qu'on a beaucoup aimé. Il y a des menaces de mort avec des balles, il y a une trahison, presque un patricide entre un employé et son patron. Il y a des dettes d'argent, donc il y a tout cet univers qui fait une chouette histoire aussi à la fin.
Et à partir du moment où vous avez eu le sujet, comment ça s'est passé ? Par où vous avez commencé ?
Alors, dès le début de l'enquête, donc M. Leloup nous a partagé ses sources et les quelques documents qu'il avait. Au final, on a fini par se retrouver avec tout le dossier judiciaire, donc plus de 1000 pages, dont on avait accès à tout, aux relevés de compte, aux SMS, aux auditions de la police. Et donc, c'était une bonne base de départ pour l'enquête. Et à partir de là, on est allé plus loin. On est allé rencontrer, évidemment, M. Police plusieurs fois dans sa collection. On a parlé avec la CITES, dont on vous a parlé, des experts judiciaires. Et on s'est aussi intéressé à d'autres victimes de NC.
Et justement, Thomas Géhenno a rencontré un taxidermiste, victime lui aussi des vols de NC.
Mais oui. Il est venu me chercher une dizaine d'animaux ici. En disant que c'était pour la galerie Maasai, puisque c'était toujours comme ça. Et donc j'ai tout noté avec les prix, et je dis, il m'a dit, tu envoies la facture à la galerie Maasai, comme d'habitude. Et les animaux qu'il a chargés ici sont partis directement ailleurs, quoi. C'est dommage, parce qu'il savait très bien que j'aurais jamais mes sous. Mais bon, c'est pas une catastrophe. C'est pas une catastrophe, quoi. Oui, voilà. Il y a des choses bien plus graves que ça.
Donc on entend donc bien ici qu'il n'y a pas que Christian Police qui a été lésé dans cette affaire. En fait, durant votre enquête, vous vous êtes vraiment rendu compte de l'échelle de cette arnaque.
Bien sûr, Christian Police est victime de vol dans sa collection, mais en fait, il y a des gens aux quatre coins du monde qui sont, pour certains, des clients de bonne foi, qui se retrouvent avec des animaux volés sans certificat CITES, qui sont faits tout bonnement arnaquer par NC. Aussi des professionnels en Belgique, on en a eu un exemple ici dans cette interview. C'est un tout petit monde, la taxidermie, en fait. Donc très vite, les gens qui sont liés de près ou de moins à l'entreprise de Monsieur Police se retrouvaient impliqués bien de leur faute dans cette affaire.
Il y a certaines difficultés liées à la dimension judiciaire de l'enquête. Pas toujours évident d'obtenir des interviews avec la police ou la justice. Alors comment avez-vous géré ça ?
C'est pas évident. Alors on a bien sûr confronté à la fin de notre enquête la police et l'avocat du principal suspect qui n'ont pas souhaité commenter une enquête en cours. Quant à la juge d'instruction, on a estimé qu'il était un peu compliqué de la contacter parce que la justice s'exprime très rarement en fait, sur les enquêtes en cours. La plus grande difficulté pour nous, finalement, c'était de comprendre le monde de la taxidermie et de traiter une affaire judiciaire qui est pleine de termes techniques, de recours, de plaidoiries. On ne sait pas trop, on n'est pas expert de sujet à la base. Par exemple, la juge d'instruction, elle est mise en cause par les victimes et on se demandait qu'est-ce qui pourrait lui arriver en fait, si effectivement il s'avérait qu'elle menait mal l'enquête. Et malgré le nombre d'experts de greffe qu'on allait voir, de cours qu'on allait voir, on n'a jamais réussi à avoir la réponse.
En tout cas, quand on demande à Christian Police ce qu'il attend de l'apparition de cette enquête, voilà ce qu'il nous répond.
Je n'y attends pas grand-chose, sauf peut-être une réaction de la justice qui va se dire « Ben oui, il a raison, on n'a rien foutu ». Ma part, ça mis à part, je n'y attends pas grand-chose, mais enfin, c'est aussi une bonne chose quand même de dévoiler au public que, quelque part, la justice n'a pas les moyens, soi-disant, la police n'en a rien à foutre ou n'a pas les moyens. Il faut que ça se sache quand même, parce qu'un cambriolage comme ça, on vole votre professionnel, votre privé, des trucs de votre femme, et le tout pour 4,5 millions, et on l'essaye, on ne fait rien pendant 2 ans et demi, on marche sur la tête.
Et cette affaire risque de connaître encore d'autres rebondissements, puisque Christian Police a déposé une nouvelle requête à la Chambre des mises en accusation, dans le but de forcer la juge d'instruction à reprendre les choses en main. Alors nous verrons si cela portera ses fruits.
Merci à Antoine, Julien, Thomas et Clémence pour votre travail. Vous pouvez retrouver leur enquête sur le VIF ainsi que sur la page du Studio Bus. Merci également à Lara, à la technique, à Mathilde, Adrien et Franny, nos journalistes.
Merci à toutes et à tous pour cette émission spéciale. On se retrouve demain à 9h pour la prochaine édition du Journal Parler. Impact.